enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Nous allons regarder dans la Bible au psaume 68. Depuis plusieurs semaines, nous sommes dans une série de messages intitulés à chaque semaine. Psaume 2005, où nous regardons au psaume dans la Bible et nous voyons leur application à nos vies de tous les jours. Et aujourd'hui, nous allons aller au psaume 68. Et le psaume 68 est un psaume qui nous présente un Dieu qui est passionné, qui est un Dieu personnel et un Dieu de pardon et de possibilités. Beaucoup, la majorité des Québécois ont déjà entendu le mot psaume, l'expression les psaumes. Et vous avez besoin de savoir ce matin que ces 150 psaumes dans la Bible sont des chants qui ont été écrits. Ce sont les psaumes, brossent un tableau utilisant toute la palette des couleurs de notre vécu sur le canevas de l'expérience humaine à la lumière de notre foi en Dieu. Les psaumes s'adressent ouvertement nos doutes, notre solitude. Ils parlent de douleur, de colère, d'accomplissement, de victoire et de déception, de richesse et de perte, de nos rêves, de nos déboires. Les psaumes témoignent de nos grands espoirs pour le futur, mais aussi du poids de notre passé qui souvent nous retient. Ils disent à voix haute ce que nous pensons tout bas. Si vous lisez les psaumes, ils sont d'une ouverture extraordinaire. Les psaumes discutent avec une ouverture désarmante nos sentiments d'injustice, nos peurs, nos maladies, nos épreuves, nos peines, les questions qui sont sans réponse, les questions existentielles, la vie, la mort, l'après-vie, l'au-delà. Qu'est-ce qui est, d'où je viens, qu'est-ce qu'il y a après la vie? Les psaumes confrontent nos pires échecs, mais ils nous apprennent aussi comment nous relever. Le mot psaume, lorsque vous regardez, à chaque fois que vous allez regarder dans la Bible et voir le mot psaume, dans l'hébreu, Sefer Tehilim, qui vient à la racine, le mot qui veut littéralement dire louange à Dieu. Mais dans le grec, c'est aussi salmos et salmoï. C'était des chants. Et le mot veut littéralement dire, dans sa forme la plus proche de nous, toucher avec le doigt, comme un instrumentiste, comme un musicien qui touche une corde et qui débute un chant. Mais les psaumes nous rappellent aussi, les psaumes nous parlent aussi, nous illustrent aussi la possibilité de tout être humain de toucher Dieu et que Dieu aussi désire toucher des êtres humains. Il y a ces centaines et centaines d'années, des hommes, des femmes de toutes les marches de la société ont écrit ces psaumes. Leur vie est devenue un chant qui raconte un témoignage de leur foi en Dieu. Et nous croyons que dans cette salle ce matin, ainsi que dans les milliers d'églises au Québec, à travers le monde, il y a encore la raison pour laquelle nous appelons la série de messages Psaume 2005. C'est qu'en 2005, encore aujourd'hui, il y a des gens qui, avec leur foi en Dieu, qui désirent et qui, par toutes sortes d'actions bien simples de la vie, bien concrètes, à chaque jour, par leur vie, écrivent encore un psaume. Des gens qui sont assis ici ce matin, des gens, l'Église Nouvelle-Vie est remplie de gens, toutes les marches de la société qui, à chaque jour, en 2005, écrivent encore un psaume. Des gens comme Raymond Christian Bisson. Raymond est un entrepreneur. Il a pris l'entreprise familiale Bisson Expert. Il reçoit souvent des prix méritants, des prix de la Chambre de commerce, des prix d'excellence pour son entreprise. Et ça, c'est ce qu'il fait, c'est son travail, mais c'est aussi un père de famille. C'est aussi quelqu'un qui s'implique très activement au groupe Action Nouvelle-Ville et sur le comité d'administration. Il s'implique de toutes sortes de façons pour aider sa communauté. Son épouse participe à toutes sortes de choses dans la vie de l'Église, mais aussi elle a appris au fil des années l'espagnol. Alors, elle est une traductrice à Action Nouvelle Vie. Périodiquement, elle va à Action. On a des gens à chaque semaine qui sont hispanophones et qui ont besoin de traduction. Ils viennent d'arriver et elle est là. Et à chaque, pour moi, la simplicité des psaumes, c'est des gens comme Raymond et Christiane qui, à chaque jour, encore aujourd'hui, écrivent un psaume. Des gens comme Patrick Sinette qui est ici ce matin. Patrick, il y a des années, était avec un passé criminalisé, avait un problème très grave de drogue et un problème de criminalité. Et c'est très particulier parce que c'est un policier chrétien qui a commencé à parler, à jaser avec Patrick. Et il a entrepris toute une démarche. Et aujourd'hui, non seulement est-il sobre depuis des années, mais Patrick est à la charge d'un organisme qui s'appelle le ROC, Aide aux jeunes, qui est en plein centre-ville de Montréal, à chaque jour, aide des jeunes, sert des repas, aide les jeunes de la rue à chaque jour. Et combien croient que sa vie devient un psaume qui est écrit encore aujourd'hui? C'est ça, c'est un psaume. Les psaumes sont écrits aujourd'hui par des personnes comme Mélina Letarte, qui, à chaque dimanche, en ce moment même, à chaque dimanche, anime avec toute une équipe de bénévoles des classes ici à l'Église pour des enfants et des adultes qui ont des difficultés d'apprentissage, des déficiences, des handicaps physiques ou intellectuels. Des personnes comme Carole Gerbard et une armée de dames bénévoles qui visitent des personnes, des maisons, des résidences pour personnes âgées à chaque semaine ici sur la rive sud, comme la résidence Pavillon Renaissance, la résidence Chevalier de Lévis, la résidence Les Trois Sphères. Et ces dames, à chaque semaine auprès d'une personne âgée que personne ne visite, écrivent un psaume. Des personnes comme Jean-Marc Ouellette, qui est un dessinateur, qui est chef concepteur en dessin chez Pratt & Whitney, à plusieurs employés de Pratt et Whitney qui sont membres de cette église. Et lui, à cette carrière-là qui l'amène à toutes sortes d'endroits, est en Pologne récemment, mais aussi un homme qui est impliqué. Il est sur le comité d'administration ici de l'église. Il est un leader dans toutes sortes de domaines dans l'église, de sécurité, d'aide. Pendant qu'on a une réunion, à toutes les semaines, il y a 3000 personnes qui viennent aux activités d'Église Nouvelle-Vie. Il peut arriver n'importe quoi. Il y a des gens qui ont un malaise, il y a des gens qui ont besoin d'aide, et lui coordonne toute une équipe d'hommes et de femmes bénévoles qui aident au bon roulement des réunions, et il écrit un psaume de cette façon. Des personnes comme Stéphanie Poirier, qui est une docteure en biochimie, elle était gagnante du prix du gouverneur, elle a été conférencière pendant des années en milieu universitaire, auteure, c'est une auteure scientifique publiée, mais elle est aussi maintenant enseignante à l'Institut de théologie de la francophonie, qui est un centre de formation que nous avons ici, et elle enseigne à plusieurs sujets, mais elle enseigne entre autres, elle est conférencière dans le domaine de la foi chrétienne et de la science moderne, de comment la foi et la science ne sont pas incompatibles. Et en tant que scientifique, elle est une conférencière merveilleuse dans ce domaine. Elle écrit des psaumes de cette façon, mais elle est aussi la coordonnatrice et la leader des activités femmes chrétiennes contemporaines ici à l'Église, qui font plein d'activités dans l'Église, mais aussi des visites, que ce soit à l'hôpital Sainte-Justine, les hôpitaux de la Rive-Sud. Et à chaque jour, je sais simplement, avec ces simples visages, de vous défier et de vous faire, de vous amener à un endroit de réalisation qu'encore aujourd'hui, des psaumes s'écrivent à chaque jour. À chaque jour, André Fauché, un homme de l'Église, est un électricien depuis des années à sa compagnie, mais il a eu à cœur les gens de la rue il y a plusieurs années, et maintenant, il va plusieurs fois par semaine, hiver comme été, aider les gens itinérants à Montréal avec de la nourriture chaude. Ils ont une cantine mobile, et lorsque les mois froids s'en viennent, moins 30, moins 40, il est là, des couvertures, des vêtements, donne de la soupe chaude, aide. Il y a plein de bénévoles de l'Église et d'ailleurs qui soutiennent son œuvre. Et à chaque fois qu'il le fait, il écrit un psaume en 2005. À chaque fois que des personnes comme Philippe Desautels, qui est un entrepreneur, une grande usine, beaucoup, beaucoup d'employés, mais qui prend des centaines d'heures par année à être le président du conseil d'administration du groupe Action Nouvelle Vie, et de toutes sortes de façons, vous allez arriver ici, je vous défie à venir ici au mois de janvier, février, lorsqu'il fait moins 30, moins 40, vous allez voir un grand gaillard dans le stationnement dont le sourire fait fondre la glace sous vos pneus. Philippe Desautels, qui est entrepreneur la semaine, qui a toutes ses responsabilités-là, qui est ici pratiquement à chaque dimanche dans le stationnement pour vous accueillir, et qui écrit un psaume à chaque semaine. Et je veux pas oublier, et non seulement pas oublier, mais je veux défier les gens de tous les âges à écrire un psaume avec votre vie. Et si vous pensez que vous êtes à la retraite, il n'y a pas de retraite dans un cœur qui désire aider. Et notre championne psalmiste est Madame Paulette Godette, qui est une bénévole au groupe Action Nouvelle Vie. Elle est en charge du département des non-périssables, et on l'appelle affectueusement la sœur non-périssable. Elle va avoir 80 ans le mois prochain et elle écrit des psaumes à chaque semaine. Pouvez-vous la féliciter avec moi? C'est psaume 2005. C'est le livre des psaumes nous appelle et nous présente. On va lire une portion du psaume 68 ce matin qui nous appelle et qui nous fait découvrir un Dieu qui est passionné et qui est personnel, un Dieu de possibilités et de pardon. Et je crois de tout mon cœur que l'Église chrétienne moderne, elle, doit être la réflexion à chaque jour, la réflexion de ce Dieu de possibilités, de pardon, ce Dieu personnel. Et je crois qu'il y a, dans la province de Québec, qu'il y a des milliers de Québécois qui cherchent cette Église, qui cherchent le Christ incarné dans l'Église. L'Église est appelée dans la Bible le corps de Christ, la manifestation de Dieu sur la terre ici au Québec. J'ai touché, il y a l'an dernier, lorsque Stéphane Laporte a écrit dans la presse, le dimanche de Pâques, il a écrit ces mots. Je crois qu'il est le reflet de la pensée de milliers de Québécois. Il a écrit « L'Église devrait être le lieu de rassemblement de tous les gens qui veulent aider, de tous les gens qui militent pour la paix, de tous les gens qui luttent contre la pauvreté. Stéphane Laporte a écrit, on y ferait la quête pour aider les démunis, c'est ce qu'on a fait ce matin, pendant que les jeunes chanteraient l'espoir, c'est ce qui s'est passé ce matin. Bref, l'Église devrait accueillir toutes les formes de prières. Quand quelqu'un du quartier vivrait un malheur, c'est à l'Église qu'on se rassemblerait pour le soutenir, pour l'aider. Pas besoin d'attendre qu'il meure. Que l'Église devienne le lieu où l'on va quand on ne sait plus où aller. Ne laissons pas les Églises mourir, parce que ceux qui l'ont bâtie avaient la foi, et ça, ça paraît. Même pour quelqu'un qui doute, une église dans une rue, c'est du bac entre deux solos de drum. Vous direz que cet appel venant d'un gars qui n'est pas allé à l'église depuis une éternité ne vaut pas grand-chose. Peut-être. C'est vrai que je ne vais pas à l'église, dit Stéphane Laporte, mais je sais que j'en ai besoin. Au fond, c'est un peu comme un hôpital, l'hôpital de l'esprit. Tant qu'on va bien, on vit dans le monde, on fait ses affaires. Mais quand arrive un coup dur, on a besoin d'un endroit pour panser ses plaies. Un endroit pour guérir. Quand la vie me fera mal, quand je perdrai un être cher, quand je ne trouverai plus de sens à mon existence, je vais sûrement avoir besoin d'une église pour me retrouver. J'espère qu'il y en aura encore. Je crois qu'il y a des milliers de Québécois qui pensent comme lui. Des milliers de Québécois qui pensent comme Micheline Duff, maçon. C'est une auteure, une romancière dont les livres connaissent un grand succès. Elle a été appelée la romancière de Monsieur Tout-le-Monde. Et la presse dit d'elle que c'est une auteure qui a le doigt sur le pouls des Québécois et des Québécoises. Elle a écrit, elle aussi, l'an dernier, dans la presse, un article. Et ce n'est pas un jugement, c'est pas une condamnation sur une partie du christianisme ou une autre. Non, c'est un témoignage, c'est un cri de son cœur. C'est un questionnement qui, je crois, est retrouvé, trouve un écho dans le cœur de plusieurs d'entre nous. Elle a écrit ceci dans la presse. Aujourd'hui, c'est dimanche. Dimanche matin. Il y a une vingtaine d'années, la question ne se posait même pas. Le dimanche matin, nous allions à l'église sans remettre en question ce geste routinier et largement répandu dans la société. Nos jeunes enfants suivaient leur cours de catéchèse. Mon mari a été le premier à s'ennuyer à l'église et à ne plus vouloir m'accompagner. Pour ma part, je sortais de l'église frustré de n'avoir pu, comme à chaque fois, trouver un seul moment pour prier directement Dieu présent dans ce temple. On devait se lever, se rasseoir, se relever pour chanter, s'asseoir de nouveau et écouter des lectures insipides des temps anciens sans rapport avec la vie. Encore chanceux si en entendant dans le sermon quelques mots concernant le quotidien ou l'actualité. Pourtant, j'aurais voulu qu'on me parle de vraies choses pour m'aider à mieux supporter le voisin déplaisant, le compagnon de travail agressif, l'autre de mauvaise langue ou de mauvaise foi. Ou de mauvaise humeur, et tous ces exploiteurs et profiteurs rencontrés durant ma semaine. J'aurais voulu qu'on m'éclaire sur la précocité sexuelle de mes ados, sur le travail au noir si tentant, sur les conseils à donner à ma copine au bord du divorce. J'aurais voulu qu'on me console, qu'on me rassure, qu'on me guide, mais rien. À l'église du dimanche, je ne trouvais pas ce que je venais chercher. Mes adolescents, emportés par la libération des mœurs, abandonnèrent un à un la pratique religieuse. À la longue, j'ai moi-même abandonné l'église le dimanche. Et elle écrit « Aujourd'hui, c'est dimanche matin. Je m'installe à mon fauteuil à bascule, un rayon de soleil sur les genoux, le journal La Presse et un café fumant sur ma table. Moment privilégié, moment de repos, moment de ressourcement, ma messe. » Et elle raconte dans la suite de l'article qu'alors qu'elle lit à chaque semaine l'horreur de l'actualité, la violence qui prend place, la corruption, les scandales autour d'elle, voici le paragraphe de la fin. Elle écrit « Écœurée, je rejette le journal et me ferme les yeux. Tout à coup, je ressens le besoin d'un retour en arrière pour en appeler à Dieu qui semble nous avoir abandonnés. Ou peut-être est-ce l'homme qui a abandonné Dieu? Je songe aux nouvelles d'hier à la télé, invariablement remplies d'horreur et alimentées de mensonges, de fraudes, de drames effroyables. Et toujours ce Dieu argent présent partout, partout. J'aurais le goût de crier, « Au secours, mon Dieu, reviens, fais quelque chose, nous allons périr. » Et ce matin, c'est à Stéphane Laporte, c'est à Madame Masson et à chaque Québécois et Québécoise et à vous et à moi que s'adresse le psaume 68. Et il nous présente ce matin, dans ce psaume 68, un Dieu qui est un Dieu tellement passionné, un Dieu personnel et un Dieu qui est un Dieu de pardon et de possibilités. Un Dieu qui est passionné. Le psaume 68 nous décrit un Dieu qui n'est pas une forme éthérique, le bonhomme en haut, une forme éthérique et insipide, ou un vieillard tremblotant, mais incapable, absolument loin, détaché de notre quotidien. La Bible ne nous peint pas, le psaume 68 ne nous peint pas un Dieu comme un tyran vengeur et cruel, ou comme un Dieu qui est un être supérieur, mais froid et indifférent. La Bible nous peint un Dieu qui est passionné, et voici sa passion. L'Éternel est son nom, psaume 68, 6 et 7. Il ne change pas. Il est le père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu. Dieu appelle ceux qui étaient seuls et abandonnés vers sa maison. Il libère des prisonniers afin de leur donner de la paix. La passion de Dieu s'est manifestée à travers Jésus-Christ qui est venu parmi les gens, là où il y a des gens qui souffraient. Le psaume 68 nous décrit la passion de Dieu. Donc, verset 6, il parle des petits, des faibles, des sans défense, des mamans seules. Verset 8, du peuple épuisé. En termes modernes, de gens qui sont aux prises avec le burn-out, la fatigue, l'épuisement professionnel, la dépression, l'angoisse, des malheureux qui ont besoin d'espoir. Verset 26 parle des jeunes, la passion de Dieu, des jeunes, des leaders, des dirigeants de pays, des princes et des pauvres, les plus petits et les plus connus, le peuple et les rois. La passion de Dieu, c'est les êtres humains. Tournez-vous vers quelqu'un à côté de vous, réveillez-le si nécessaire. Et dites-lui, Dieu est passionné par toi. C'est ça la personne près de vous, s'il vous plaît. La passion de Dieu, j'aimerais vous représenter le Dieu de la Bible. La passion de Dieu, c'est lui qui est le défenseur des orphelins, défenseur de ceux qui sont abandonnés. Et dans le psaume, on parle de toutes les sphères possibles de la société, du plus petit au plus grand. Et Dieu dit, voilà, vous êtes ma passion. Ma passion est d'amener libération au cœur, aux pensées, à l'esprit de votre passé et de vous donner pardon et de vous donner possibilité à chaque personne, où que vous soyez dans la société, où que vous, quelle que soit la place que vous occupiez. Le psaume 68 prend bien soin de peindre un portrait de tout ce qui peut prendre place, de la personne qui souffre en ce moment dans une société à la personne qui la dirige. Dieu dit, moi je suis, ma passion, c'est de libérer le cœur et la vie, de m'offrir et d'offrir mes possibilités à chaque être humain. On reçoit beaucoup de courriels, quel que soit votre âge, ce Dieu passionné pour vous. On reçoit beaucoup de courriels, je suis toujours touché par des courriels de jeunes. On reçoit des centaines de courriels à chaque semaine et il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui vont sur notre site Internet et qui nous écrivent toutes sortes de choses. Et j'ai été touché cette semaine de recevoir un courriel et c'était une jeune fille qui écrivait pour remercier le groupe Action Nouvelle Vie. Une jeune fille, c'était ce qui m'a touché parce que dans la même semaine, et j'en ai fait mention la semaine dernière, dans la même semaine, j'ai reçu deux courriels qui venaient, qui étaient de personnes qui viennent du pays du Burundi, du pays africain du Burundi. On a beaucoup d'Africains sur la rive sud de Montréal, on a de plus en plus qui fréquentent le groupe Action Nouvelle Vie et qui sont ici à l'église aussi. On a un pasteur africain sur l'équipe pastorale et il y avait cette lettre d'une jeune fille qui écrivait simplement pour remercier parce qu'elle dit que ça fait pas longtemps qu'ils sont arrivés, puis elle remerciait pour ses parents, elle remerciait pour l'aide qu'Action Nouvelle Vie leur apportait, elle remerciait, elle écrit une lettre super articulée et ils ont quitté leur pays, ils sont ici maintenant, viennent d'arriver et elle manifestait simplement une reconnaissance. J'ai envoyé la lettre à groupe Action Nouvelle Vie pour que les bénévoles aussi puissent l'avoir, on en reçoit beaucoup, mais elle parlait très directement de ces gens qui arrivent et qui ont vécu des choses terribles dans leur pays et qui étaient arrivent ici, qui ne savent même pas où commencer dans la vie, n'ont pas leur bien-être social encore, n'ont rien de tout ça et se retrouvent là avec rien encore et le groupe Action Nouvelle Vie qui arrive et qui est l'expression littéralement de la passion de Dieu envers eux. Mais la même semaine, et je l'ai mentionné la semaine dernière, et j'étais à New York cette semaine, puis on a eu des confirmations. Les mêmes semaines, nous avons reçu une invitation du président du Burundi. Il y a un nouveau président depuis le mois d'août. Et le président du Burundi s'appelle Pierre Nkurunziza. Et lui, a été élevé dans la haine, dans la colère, dans les difficultés de son pays terribles. Il y a eu des génocides là-bas. Il y a eu des guerres civiles qui ont duré, comme beaucoup d'entre vous qui sont du Burundi savez. Et lui a vu son père être assassiné sous ses yeux. Il était dans un groupe de révolutionnaires pendant des années. Et un homme qui était pris... Le cœur et l'âme pris par tout ce que des émotions humaines qui peut nous détruire, de violence, de colère, de rancune et dans un pays qui se déchirait, un pays où il y a eu un génocide terrible semblable à celui du Rwanda. Et il y a, en 1993, dans tout ça, il était dans le maquis, il était dans les forêts, ils étaient des rebelles armés. Et en 1993, il y a plusieurs des hommes qui ont commencé à être en contact avec lui, qui étaient, a commencé à fréquenter une église à Bujumbura qui s'appelle l'église du Bon Berger. On connaît très bien, le pasteur, un de nos amis, est un pasteur fondateur de cette église-là là-bas. Et qui ont commencé à lui parler de pardon, lui parler de foi, lui parler de grâce. Et lui a fait quelque chose qui est impensable, et si vous allez sur Internet, vous allez voir qu'il y a plein de journaux qui en parlent. En 1993, ils sont entrés un soir que l'église était réunie, ils sont entrés un soir avec leurs armes dans l'église. Dites à quelqu'un près de vous, il peut arriver n'importe quoi dans une église. On a déjà eu ici, monsieur, je veux pas donner d'idée à personne, mais monsieur le maire s'en souvient, on a déjà eu ici la coupure du ruban pour l'inauguration avec une alerte à la bombe. À l'extérieur, il y avait les pompiers, il y avait les chiens, il y avait tout. Il y a quelqu'un qui venait me dire dans l'oreille, les policiers disent qu'il vous reste 30 secondes pour finir la réunion. Et moi, je souriais avec monsieur le maire qui coupait le ruban et qui est ici. Et lorsqu'on a sorti, j'ai dit, écoutez, si vous voulez, on cherchait une façon de rendre excitant votre sortie de l'église en ce jour d'inauguration. Alors, il y a un spectacle de lumière à l'extérieur, vous allez voir. Et c'était un record ce matin-là. Il y avait plus de 2000 personnes, 3000 maintenant. Il y avait plus de 2000 personnes. Et en 7 minutes, l'église était complètement vidée. Même ma femme et mes enfants, baba chérie, on va se voir à la maison, étaient partis. N'importe quoi peut arriver dans une église. Et ce soir-là, de 1993, ils sont arrivés avec leurs armes dans l'église. Ils ont mis leurs armes par terre puis ils ont dit, demain, on s'en va au palais du président et on s'en va se rendre. Peut-être qu'on va être mis à mort. On veut que ça cesse. On veut que les conflits cessent. L'Église a prié pour eux. Dans les jours qui ont suivi, ils se sont rendus au palais. Sur Internet, vous avez des revues de presse qui parlent de tout ça. Ils se sont rendus au palais. Non seulement a-t-il pas été mis à mort, mais dans les mois qui ont suivi, il a été nommé ministre. Pendant 2 ans, il a été ministre. Et au mois d'août 2005, il est devenu le premier ministre du pays. Et la première chose, une des premières choses qu'il veut faire dans son mandat est de faire une conférence. Le président veut appeler les gens du pays à une conférence de réconciliation. Nous a invités à aller apporter une conférence là-bas. Le pasteur de New York, moi et d'autres pasteurs de France qu'on irait vers là-bas parce qu'il a dit, il y a seulement cette foi-là qui a réussi à amener la réconciliation et la paix dans mon cœur et c'est seulement sur cette fondation-là que je peux rebâtir mon pays. Je veux vous déclarer ce matin que ce Dieu passionné, il est pour celui qui est ici, il est pour celui qui est là, où que vous soyez, le Dieu passionné est là pour vous. Parce que ce Dieu passionné, alors que j'arrive à la fin du message, est un Dieu personnel. Il n'est pas le Dieu des foules, il n'est pas le Dieu des masses. Le psaume 68 nous dit, « Remercions Dieu, car à chaque jour, il nous prend en charge. À chaque jour, il trouve les moyens de nous sortir de. À chaque jour, c'est Dieu qui donne de la force, de la puissance et du pouvoir. C'est lui qui nous rend capables. » Il est un Dieu infiniment personnel. Le psaume 68 donne des lieux précis et donne des noms d'individus. Il parle de déserts, de montagnes, de Jérusalem, d'Égypte, d'Éthiopie, mais aussi des noms spécifiques de David, de Naphtali, de Benjamin. Rappelant à chaque personne ici ce matin qu'il n'est pas le Dieu des masses, c'est le Dieu des foules et le Dieu des grands rassemblements. Il est le Dieu, il est présent lorsqu'on est ensemble par milliers, mais il est le Dieu personnel qui sait où vous restez, qui vous êtes, connaît votre nom. Et en 2005, il dit à Longueuil, à Brossard, à Boucherville, où que vous soyez, quel que soit ton nom, ton passé, ton présent et ton avenir, il est le Dieu qui peut. C'est un portrait très, très simple. Un portrait d'une grande simplicité. Le psalmiste dit, c'est ce Dieu qui à tous les jours, nous prend en charge. Qui me donne les moyens de sortir de. Qui donne de la force, de la puissance. Et encore une fois, en Jésus-Christ, qui était venu pour sauver l'humanité, était ce portrait d'un Dieu. Il est venu pour sauver l'humanité, mais il vient et pendant 3 ans, il développe une relation personnelle avec des êtres humains. Il marche avec eux, il mange avec eux, il se lève avec eux, il se couche avec eux, il s'endort avec eux le soir, il se lève avec eux le matin, il traverse avec eux. Et Jésus, continuellement, lisez les 4 évangiles, continuellement, Jésus, lorsqu'il y avait une foule devant lui, allait chercher une personne dans la foule pour rappeler à tous qu'il n'est pas un Dieu de masse anonyme. Il est le Dieu d'une personne. Et ce matin, il tend sa main, puis il va aller vous chercher dans la foule. Quel que soit votre passé, il est le Dieu passionné, le Dieu personnel. Et je termine avec ceci. Il est un Dieu de pardon et un Dieu de possibilités. Il a dit, tu as libéré, le verset 19 du psaume 68, tu as libéré des captifs, ô Dieu, et tu les as amenés sur de nouvelles hauteurs avec toi. Alors, vous allez avoir besoin de ce verset-là, d'un Dieu de possibilités. À celui qui croit, nous dit l'Évangile de Jean, il donne le pouvoir, la capacité de devenir. De devenir infiniment plus que ce que nous pourrions être par nous-mêmes. Vous allez avoir besoin de ce verset dans quelques semaines ou mois, je ne veux pas vous le rappeler, mais ça s'en vient. Vous savez ce qui s'en vient. Nous avons un institut de formation ici, où on a des étudiants au fil des années qui viennent pour être formés pour le ministère, et ils viennent de toutes sortes de pays de la francophonie. On en a qui viennent d'endroits comme Nice, la Côte d'Azur, n'ont jamais vu un flocon de neige, n'ont jamais ressenti la vraie neige de leur vie. On a eu des étudiants qui venaient de Tahiti, Papété, qui viennent de Guadeloupe, de Martinique, et ils viennent ici, ils ont tous une vision romantique de l'hiver québécois. Lorsqu'ils arrivent, ils disent toujours des phrases comme « on a assez hâte, on l'a vu dans des films, on l'a vu sur une vidéo. Lorsque la neige tombe, on veut que la neige nous touche le visage. » Voulez-vous dire à voix haute, pauvre innocent, voulez-vous dire ça, bon? On l'enlèvera de sa cassette, ce bout-là, on mettra pas ce bout-là à radio. Mais croyez-moi, lorsque le mois de janvier, février arrive, ils sont rapidement ramenés à la réalité. Vous allez tous le vivre avec moi. Imaginez-le pendant une seconde. Il va faire moins 30, il va faire moins 40, et il fait froid, et le matin fait noir. Oh! Lorsque vous avez besoin à ce moment-là d'être rappelé du Dieu de possibilités qui se lève avec vous à chaque matin, du Dieu de possibilités qui peut t'amener dans ta vie, dans tes émotions, dans ta vie, dans ta carrière, dans ta famille, dans ton couple, avec tes enfants, sur des hauteurs que tu ne pourras pas connaître autrement. Je vous pose une question très simple. Lorsque vous vous levez le matin et que vous vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez ici un petit chat qui a une attitude de possibilité. Ce que je peux vous dire, que Dieu veut vous amener à de nouvelles hauteurs. Qu'il est un Dieu de pardon et de possibilités. Il y a toutes sortes de noms à Dieu qui sont donnés dans la Bible. Un des noms, c'est qu'il est le lion de la tribu de Juda. Ce que je peux vous dire, lorsque vous vous sentez petit et sans ressources, que le Dieu de l'univers vit en vous, qu'il veut résider en vous, qu'il veut vous prendre à chaque jour, veut vous donner des capacités et des forces à chaque jour. Que ceux qui connaissent ce Dieu de possibilités et qu'il a fait des choses remarquables dans votre vie, surprenantes, voulez-vous encourager les autres pendant un instant et simplement applaudir avec moi en terminant dans ce Dieu de possibilité de pardon. Pendant que les musiciens s'approchent et que nous arrivons à la conclusion ce matin, le Dieu du psaume 68 est un Dieu personnel, un Dieu passionné et un Dieu de possibilité de pardon. Il dit au verset 19, c'est très... Moi, je suis souvent... Les gens sont un peu choqués au début, pas choqués, mais surpris de la franchise de la Bible. La Bible n'est pas politiquement correcte. La Bible ne donne pas une version hollywoodienne où tout est... Non, la Bible adresse les vraies situations de nos cœurs. Et dans ce psaume 68 qui parle de ce Dieu de pardon, de possibilité, ce Dieu personnel, Dieu reconnaît qu'il y a des gens qui sont rebelles, des gens qui sont déçus, des gens qui sont amers face à la religion, face à Dieu, face à l'Église, face aux représentants de Dieu. Il dit par exemple, tu as trouvé, au verset 19 du psaume 68, des dons parmi les êtres humains, même ceux qui étaient rebelles, afin de faire ta demeure en eux, ô Dieu. Si vous êtes ici ce matin, il y a des gens qui vont écouter cette portion de ce message à la radio. Vous êtes ici ce matin, vous avez vécu de la colère dans votre cœur envers l'Église, envers les choses de Dieu, envers les représentants de l'Église, envers la religion. Dieu connaît tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez traversé. Et ce matin, il offre sa grâce. Il offre son amour, il offre son pardon. J'aimerais vous dire ceci. Les hommes qui représentent Dieu vous décevront toujours. Mais Dieu, dans sa fidélité, lui, ne vous décevra jamais. J'aimerais vous dire ceci, que peut-être que vous êtes ici aujourd'hui, vous avez été endurci dans vos cœurs, vous avez été éloigné de Dieu, ou vous avez vécu des échecs ou des épreuves. Le psaume 68 nous rappelle que Dieu n'est pas venu et le pardon de Dieu n'est pas offert à des gens parfaits. Le pardon de Dieu est offert à des gens qui ont connu des cuisants échecs dans leur vie, des gens qui ont fait des erreurs, des gens qui ont été durs, des gens qui se sont éloignés. Et il l'a dit d'une manière poétique, magnifique. Au psaume 68, « Alors que vous étiez étendus au champ de bataille, le Seigneur vous donne une parole. Tu seras comme une colombe dont les ailes sont couvertes d'or et d'argent. » Le psalmiste l'a dit de cette façon dans le psaume 66, « Nous avons été éprouvés comme on éprouve l'or et l'argent. Nous avons passé par l'eau et le feu. » Mais tu nous en as fait sortir, ô Dieu, avec abondance. L'or et l'argent dans la Bible parlent, c'est à faire référence au processus que pour avoir de l'or, de l'argent, il y a une chaleur, il y a un feu, il y a une flamme, il y a une épuration qui prend place. Il y a un brûlement qui prend place. Et l'or et l'argent parlent dans les Écritures de personnes qui ont traversé des affaires, qui ont passé à travers, qui ont une vie où il y a eu des difficultés. Il dit le psalmiste, moi j'ai passé par l'eau, j'ai passé par le feu. Mais tu nous en as fait sortir, Seigneur, pour l'abondance. Moi, je suis reconnaissant à Dieu qu'il offre sa grâce à des gens qui se sont endurcis dans leur passé, des gens qui ont été endurcis, des gens qui ont été en colère, des gens qui ont connu des échecs, des gens qui ont fait des erreurs, des gens qui vivent des épreuves. Le psaume 68 est écrit à un moment où le psalmiste David connaissait des épreuves terribles. Les psalmistes connaissaient des épreuves. Le contexte, c'est « Sauve-moi, ô Dieu. Les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis dans un gouffre. Les eaux m'inondent. » Les théologiens disent qu'il y a quatre hypothèses. À quel moment est-ce que ce psaume-là a été écrit? Il y en a qui disent, certains historiens théologiens disent que c'est un moment de terrible endurcissement où David était presque endurci parce que qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que Dieu t'a permis à ça d'arriver? D'autres disent que c'est un moment de terrible éloignement où le cœur de David s'était éloigné. Moment de terribles échecs. Moment de terribles épreuves. Jésus n'est pas venu pour des gens parfaits. Il est venu dans quel que soit l'état que vous êtes en ce moment pour venir simplement s'arrêter en ce mois de, en cette fin d'octobre 2005 et dire, Seigneur, j'ouvrirai mon cœur au-dessus de possibilités. À des jeunes qui sont rebelles, à des jeunes qui sont en colère à cause de ce que tu as vécu dans ta maison, dans ton foyer, à des personnes qui ont connu des échecs cuisants. L'image est tellement belle. La couleur blanc dans les Écritures symbolise tout ce qui est perfection et pureté. Et la colombe dont on parle ici n'est pas une colombe blanche et parfaite, pure, sans tache, sans erreur et sans passé. Et le portrait est saisissant. C'est un portrait de champ de bataille, des gens qui sont étendus au combat, mais qui tout à coup, par la grâce de Dieu, s'élèvent. Une colombe avec des ailes couleur or et argent. La colombe représente des gens qui ont vécu des épreuves, des difficultés. Mais comme le psalmiste, il dit, « J'ai passé par l'eau, j'ai passé par le feu, mais tu nous en as sortis, Seigneur, pour nous amener dans l'abondance. Et tu as fait de moi une colombe, pas blanche, parfaite, sans passé, mais une colombe avec des ailes d'or et d'argent. J'ai passé par le feu, mais j'en sors avec un témoignage de la grâce et de la bonté de Dieu. » Cette semaine, en terminant, j'étais au resto sur le boulevard Saint-Charles. J'ai vu passer, monsieur le maire, 100 000 à l'heure devant le... Pas eu le temps de vous dire, bon, il a juste passé. Il y a un monsieur qui est venu nous voir à notre table, qui est un ami, papa de hockey, que j'ai connu à travers le hockey. Mon fils joue au hockey pour Longueuil. Et c'est un avocat, c'est un monsieur qui est très, très occupé. Puis, on était au resto, il était avec un ami, puis j'étais avec un ami aussi. Puis, il s'est arrêté à la table, puis il m'a juste posé la question, puis il parlait fort. Je sais pas si c'est sa voix d'avocat, de plaideur, mais il parlait fort. La moitié du restaurant s'en venait l'entendre. Il dit, « C'est coudon, j'ai passé dimanche. Il y a bien du monde à cette affaire-là. Pas d'allure, tu veux les autos, tu veux. » Puis il me dit, écoute, il dit, c'est pas fini, ça, les églises. J'étais assis là dans le resto, puis je fais mon verre d'eau tranquille. J'aimerais lui répondre, j'ai répondu, mais ça, peut-être vous avez déjà vécu ça. Sur le coup, tu voudrais, ben, tu réponds le mieux que tu peux, mais après ça, tu es tendu le soir, tu dis, c'est ça que j'aurais dû dire. Y a-tu quelqu'un qui a déjà vécu ça ici? Alors, j'aimerais lui répondre ce matin. Il n'y a personne d'extraordinaire ici, à cette église, humainement. C'est pas causé par une leadership révolutionnaire où il n'y a pas de. Nous ne sommes que des gens. Cette église ici est remplie de gens qui ont vécu des épreuves, qui ont vécu des échecs, des temps d'endurcissement, des temps d'éloignement, mais qui ont remis leur vie dans les mains du Dieu personnel, du Dieu de possibilité, du Dieu de pardon, qui ont reconnu leur besoin de ce pardon. Des gens qui se sont trouvés à un moment ou à un autre, couchés sur le champ de bataille, mais Dieu, par sa grâce, a soufflé sur nous et nous prenons ensemble notre envol comme des colombes avec des ailes d'or et d'argent. Nous sommes des gens qui courons sur la piste de la vie absolument imparfaite. Mais quelqu'un nous relève, quelqu'un nous aide et on peut tendre une main pour aider quelqu'un d'autre. Vous savez tous, j'avais vu un petit clip de cette scène-là et quelques années seulement, aux Olympiques spéciales pour personnes qui ont différents handicaps ou difficultés. Ces Olympiques-là sont toujours extrêmement touchantes et il y a des gens qui se dépassent. C'est tellement beau de voir la solidarité, mais ça s'est culminé dans une course particulière où celui qui était à l'avance, qui était en tête, terminait la dernière courbe, le dernier tournant, puis s'en allait vers la ligne d'arrivée. Et en approchant à quelques centaines de mètres ou à quelques dizaines de mètres de la ligne d'arrivée, il a tombé, il a trébuché, puis il est tombé, puis toutes les autres l'ont dépassé. Et là, alors qu'il est tombé, la foule a fait « Oh! » Et toutes les autres l'ont dépassé. Puis alors que toutes les autres l'ont dépassé, un à un, les autres l'ont regardé en arrière, puis ils sont tous arrêtés, ont retourné toute la gang en arrière, devant le stade rempli, l'ont pris, sont mis bras dessus, puis ils ont traversé la ligne d'arrivée, toute la gang ensemble. J'aimerais vous dire, ouais. C'est ça l'Église. C'est ça la foi chrétienne. C'est ça l'Église Nouvelle Vie. Des gens qui ont connu des échecs, des gens qui ont connu des endurcissements, des gens qui ont connu des épreuves, des gens imparfaits. Mais nous avons été touchés par la grâce de Dieu. Et on s'arrête en chemin pour simplement tendre une main à quelqu'un d'autre qui trébuche parce que nous avons tous déjà trébuché. Puis on se prend par la main ensemble, puis on dit marchons à chaque jour avec ce Dieu de possibilités, ce Dieu de pardon et ce Dieu personnel. Et l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, le cœur de l'homme ne peut pas imaginer tout ce que Dieu a de préparer pour son peuple. Je vais vous dire amen en terminant ce message ce matin et donner applaudissements à Dieu. J'aimerais vous demander de pencher la tête pour un moment de prière, un moment de recueillement. Merci de la patience que vous avez témoignée. Dieu connaît chaque personne qui est ici. Il y a des dizaines de personnes qui sont avec nous pour les premières fois. Il y a aussi des jeunes, des gens de tous les âges, des jeunes qui sont ici, quelques centaines de jeunes qui sont ici. Des papas, des mamans monoparentales, des hommes seuls, femmes seules. Des gens qui ont vécu des épreuves toutes récentes, des épreuves de longue date, mais qui font encore mal. Des gens d'affaires, des professionnels, des papas, des grands-parents. Quel que soit votre âge, votre arrière-plan, arrêtez-vous un instant dans nos vies si occupées et ouvrez vos cœurs à ce Dieu de pardon, ce Dieu personnel et ce Dieu de possibilités. Peut-être que vous êtes de ceux qui avaient été rebelles, vous avez été endurcis, vous avez été éloignés, vous avez connu des échecs. Peut-être que même ce matin, vous avez connu, vous êtes en plein milieu d'une épreuve. J'ai marché dans les couloirs cette semaine, puis j'ai rencontré une dame qui était ici pour rencontrer quelqu'un de l'équipe pastorale et qui traverse de multiples opérations pour le cancer, aux ovaires, chimiothérapie, tout ça, elle est en plein cœur d'une épreuve. C'est sa vie qui se joue. Quel que soit ce que vous vivez ou traversez, le psaume 68 vous rappelle que Dieu est passionné. Sa seule passion, c'est vous. C'est des êtres humains. Que Dieu est personnel. Il appelle votre nom, votre vie. Et qu'il est un Dieu de pardon et de possibilité. Que du milieu du champ de bataille, vous pouvez vous envoler avec des ailes d'or et d'argent. Que sur la course de la vie, nous nous arrêtons ce matin pour tendre une main et dire, si tu as trébuché, te tendons la main, on va marcher ensemble. Et surtout, Dieu va marcher avec toi. Qu'il y a 2000 ans, c'est ce qu'on va célébrer à Noël dans quelques semaines. Dieu a envoyé son Fils, Jésus. Il est venu sur terre. Il a vécu parmi nous, mort pour nous, souffert avec nous, tenté en toutes choses avec nous. Et alors qu'il ressuscite, il donne une puissance de résurrection, la possibilité que nous aussi, à chaque jour, nous puissions connaître une nouvelle vie. Je ne ferai pas d'appel ici à l'avant ou à vous déplacer. Mais partout dans les évangiles, Jésus appelait les gens à des moments de décision. Et ce matin, j'aimerais vous appeler, vous, où que vous soyez. Je ne vous appellerai pas ici à l'avant. Mais si vous êtes ici ce matin, j'aimerais appeler des gens qui peut-être, des gens qui ont un arrière-plan chrétien. Mais ce matin, vous dites, c'est pas juste l'arrière-plan, une connaissance intellectuelle. Ce matin, c'est mon moment à moi. Pour ouvrir mon cœur à ce Dieu personnel pour moi. Si vous êtes ici ce matin, vous voulez ouvrir votre cœur, votre vie à ce Dieu personnel. Vous vous êtes éloigné de lui et vous voulez revenir à lui. Ou pour la première fois, vous dites, oui, je veux, oui, moi, personnellement. La Bible, Jésus a dit, c'est comme naître de nouveau. Tu es né physiquement, tu as une date de naissance, mais maintenant, c'est une naissance spirituelle. Et tu ouvres ton cœur au Dieu de pardon, au Dieu personnel, au Dieu de possibilité. La personne qui m'aiderait me regarder dans les yeux à la fin de cette matinée pour me dire dans un moment d'honnêteté, de transparence, non, moi, j'ai pas besoin du pardon. Moi, j'ai pas fauté, moi, j'ai pas péché, moi, j'ai pas fait d'erreur, d'échec dans ma vie. Il n'y a pas de choses que je regrette. La Bible dit tous en ont besoin. Tous ont besoin d'être récipients de cette grâce. Alors ce matin, ce que je peux simplement demander, si vous êtes ici, et que la main de Dieu est tendue vers vous, et que vous dites, oui, je veux ouvrir mon cœur à ce Dieu passionné de pardon et de possibilité, puis j'ai besoin, moi, de son aide. Je veux reconnaître mon besoin de Dieu, quel que soit ton âge, des ados qui sont ici. Je ne sais pas s'il est là ce matin, mais cet ado qui m'a écrit cette semaine, qui me parlait, qui combattait le suicide, et qui m'a promis qu'il était pour être ici ce matin. Si toi, tu es là, tu sais que je te parle à toi. Qui que ce soit d'autre qui traverse un moment d'épreuve, vous êtes ici ce matin, quel que soit votre âge, et la main de Dieu est tendue vers vous, et vous voulez mettre votre main dans la main de Dieu. J'aimerais vous demander, là où vous êtes, de juste lever votre main, simplement pour dire, je mets ma main dans la main de Dieu, partout à travers ce lieu. Des dizaines de mains qui se lèvent partout dans cette salle. Partout dans cette salle. Voici ce que nous allons faire ce matin. J'aimerais vous demander de répéter cette prière avec moi. Toute l'assemblée ensemble, nous allons la prier ensemble. Terminer en prière ce matin. Et vous qui avez levé vos mains, la Bible dit ici, si vous priez cette prière sincèrement, ce n'est pas la répétition qui compte, c'est votre cœur sincère alors que vous la priez, que Dieu est à l'écoute de cette prière, que Dieu va répondre à cette prière, que vous pouvez naître spirituellement ce matin ici dans ce lieu. Est-ce qu'on peut prier tout le monde ensemble en terminant en disant, « Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais mon besoin de toi. Je te demande pardon et je te remets ma vie. Pardonne-moi, fortifie-moi, console-moi et révèle-moi qui tu es. Je veux te connaître. Ô toi, Dieu personnel, Dieu passionné et Dieu de possibilités. J'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Fais de moi une nouvelle personne et donne-moi une nouvelle vie dans le nom de Jésus. » Et tous ceux qui ont reçu cette nouvelle vie disent un grand Amen ce matin alors que nous terminons ensemble. Levons-nous. Dans un moment de prière, voulez-vous fermer vos yeux? On va simplement chanter ensemble ce matin. Nul n'est comme toi. Nul n'a su m'aimer autant que toi. Chantons ce psaume de confiance. Et où que vous soyez, remettez vos vies et vos cœurs dans les mains du Dieu de pardon, de possibilité.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.